La voie est libre.
Alexandre Meyer.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voie est libre. Mangeons-nous trop de viande? Depuis 30 ans, la consommation de viande de boucherie diminue lentement avec une décélération encore plus nette ces dernières années. En cause, les prix élevés, le pouvoir d'achat en baisse, mais aussi l'évolution des mentalités qui nous fait nous interroger. Faut-il continuer à consommer beaucoup de viande? Une étude américaine a récemment révélé qu'une consommation excessive de viande augmentait la mortalité de 12% et les risques de cancer ou de maladies cardiovasculaires. La consommation de viande en petite quantité participe à un bon équilibre nutritionnel, mais elle n'est pas indispensable pour l'homme s'il prend du poisson ou, dans certaines contrées du monde, des insectes et des larves. En serons-nous bientôt réduits à manger des vers et des criquets pour sauver notre santé? La réponse dans La Voie est libre. Voilà, jingle. C'est le carnaval aujourd'hui, c'est pour ça qu'on aborde ce sujet. Carnaval, c'est un mot qui apparaît en 1549 pour exprimer le sens en français de fête donnée pendant la période du carnaval, qui vient de l'italien, carnevallo, qui a pour origine carne levare, carne la viande, levare enlever. C'est l'entrée en carême quand on arrête de manger de la viande. C'est effectivement le dernier jour où on peut festoyer avant le mercredi des cendres, demain, et jusqu'au répit de la mi-carême. Alors, on vide les frigidaires, et c'est la raison pour laquelle on faisait les crêpes, c'est parce qu'on ne pouvait pas conserver les œufs, figurez-vous, donc il fallait les manger avant qu'il ne soit trop tard. C'est aussi une date emblématique, c'est le 4 mars qu'est célébrée la fête des bouchers, la Confédération de la boucherie, fête cette année ses 120 ans, une corporation, celle des bouchers qui renoue avec une ancienne tradition qui avait lieu à l'église Saint-Jacques, dont ne subsiste aujourd'hui que le beffroi, la très célèbre et magnifique tour Saint-Jacques, magnifique monument gothique au cœur de Paris, rue de Rivoli. Rue de Rivoli, voilà, messe de la boucherie, c'est tout à l'heure, on vous signe une dispense puisque c'est à 10h, vous avez le droit de quitter l'émission en cours, et c'est à l'église du Saint-Esprit, avenue Daumesnil, dans le 12e, à Paris. Et puis dernier rendez-vous, c'est à 12h30 à l'École nationale supérieure des métiers de la viande, pour la remise du prix de l'Académie du Mardi Gras, qui récompensera la personne ayant contribué durant l'année à la renommée de la boucherie traditionnelle française. Si vous voulez être récompensé, il faut que vous filiez Pascal Buffard. Bonjour, merci d'être avec nous. Tirez un tout petit peu le micro vers vous. Voilà. Vous êtes trésorier de la Fédération de la boucherie et des métiers de la viande de Paris et de la région parisienne. Boucher-traiteur à Choisy-le-Roi.
Choisy-le-Roi, oui. Voilà. Disons que nous sommes en société familiale, mon frère, ma sœur et moi. Nous avons repris une maison qui a 50 ans d'existence, qui a été créée par mon père. Et donc, nous exerçons sur deux boutiques à Choisy. Donc, une particulièrement importante à côté de la gare, sur laquelle j'ai quand même une grosse influence.
Ouais. Et vous allez nous parler de votre beau métier. Depuis combien de temps le pratiquez-vous?
Je suis boucher depuis 26 ans. Donc j'ai un parcours qui est un petit peu particulier, puisque au départ je suis né dans la boucherie, mais j'ai fait des études agricoles, donc j'ai un brevet technicien supérieur en production animale.
Oui.
J'ai fait un petit parcours en Bretagne pendant 5 ans, et puis je me suis réintéressé au métier originel à l'âge de 25-26 ans.
Est-ce que vous êtes éleveur aussi?
Pas vraiment. Disons que j'ai la fibre pour l'élevage, puisque ouais, au départ c'était cet aspect-là qui m'intéressait. Ouais. Et puis les hasards de la vie et puis les besoins ont fait que je me suis réorienté vers un métier que j'estime durable, qui est la boucherie, qui est un métier très noble à mon avis.
Un métier qui cartonne, à en juger par le nombre de bouchers stars que l'on voit sur les plateaux de télévision.
Alors, boucher star, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Moi, je suis plutôt au service de ma clientèle, et je préfère le mot renommé et que la starisation.
Et si vous n'êtes pas éleveur vous-même, vous nous parlerez des filières, puisque le mot a son importance, filière, terroir, etc.
De toute façon, le boucher ne peut pas faire sans ses éleveurs, ouais, puisque c'est grâce à eux quand même qu'on a cette matière première qui est de qualité, et sans laquelle on ne peut pas œuvrer.
Mais des éleveurs et une filière pour les produits de qualité, peut-être tout le monde n'a pas les mêmes scrupules, et vous nous direz pourquoi est-ce que c'est important, et auprès de quel genre d'éleveur vous fournissez particulièrement. Face à vous, Ona Mayoko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créatrice d'un atelier de cuisine végétarien à Paris. On retrouve toutes les infos sur votre site internet www.super-naturel.com. Supernaturel.com, une cuisine bio et végétarienne qui puise son inspiration dans l'ingrédient végétal local de saison beaucoup de mots aussi qu'on aime énormément, en tout cas à ce micro. On ne peut faire l'économie de la fraîcheur, indispensable à l'expression de saveurs authentiques. Et ces saveurs authentiques, vous les déployez grâce à des recettes, c'est ça qu'on trouve sur votre site ?
Tout à fait, donc à partir donc de recettes végétariennes et même végétales. Et dans mon travail au quotidien, j'essaye de transmettre cette passion pour cette cuisine. Une cuisine différente et qui peut être tout à fait savoureuse, équilibrée, source de plaisir et qui est même aujourd'hui reconnue comme tout à fait innovante par certains grands chefs. Mmh. Donc voilà, on voit un réel enthousiasme autour de cette cuisine et moi mon travail c'est d'aider les gens à accéder à cet enthousiasme.
Voilà. J'ai lu quelque part que chaque plat végétarien était un plat unique. Tellement il y a de variétés.
Tout à fait.
Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas juste la feuille de salade avec un trait d'huile d'olive.
Tout à fait. Moi, j'aime définir la cuisine végétarienne comme une soustraction, un vide, une absence de viande, plutôt comme une cuisine qui se définit par une grande variété de recettes. Nourri par une grande variété d'ingrédients végétaux, parce que le monde végétal comestible finalement est en fait bien plus vaste, bien plus riche que le monde animal comestible.
Oui, oui.
Donc voilà, on pense légumes, tout le monde nous parle de feuilles de salade quand on est végétarien, mais les légumes c'est pas que la salade, les végétaux c'est pas que les légumes, il y a les légumes, légumes feuilles, légumes racines.
Il y a les racines, c'est ça.
Oui, surtout en hiver, c'est important. Ouais. Légumes branches, légumes fruits, les tomates, les aubergines. Il y a les légumineuses. C'est quoi les légumineuses ? Ce sont des lentilles, ce sont des pois chiches. Il y a les céréales, toutes les céréales qu'on consomme pas forcément toujours, auxquelles on pense pas toujours. Le millet, le quinoa, les choses aussi qui sont produites en
France.
Et que
le quinoa a contribué à relancer complètement la petite agriculture de Bolivie.
Il faut savoir qu'on
même à la faire passer quasiment au stade industriel maintenant.
Ouais. Mais le quinoa se cultive très bien en France, donc. Voilà. Et aussi, si vous voulez, il y a tout ce qui est oléagineux. On n'en parle pas beaucoup, on ne sait pas toujours. C'est les noisettes, les noix. Enfin voilà, il y a des choses très, très nutritives et vraiment délicieuses qui entrent dans la composition de cette cuisine végétarienne.
Voilà. À vous entendre, on n'est pas très loin du régime crétois finalement. Et on jugera de la diversité immense de tous ces petits plats en visionnant, regardant, en parcourant votre site internet supernaturel.com agrémenté de nombreuses photos, voilà, et d'idées de recettes. Merci beaucoup d'être avec nous, Ona Mayoko. Avant d'écouter Francine, ça se bouscule au standard 01 56 56 44 00 pour réagir à ce sujet. Je vous présente mes deux invités suivants. Élodie Vieille-Blanchard, bonjour.
Merci d'être
avec nous. Professeur agrégé de mathématiques, docteur en sciences sociales, présidente de l'association végétarienne de France. C'est curieux comme les végétariens se sont installés du même côté de la table, finalement on aurait pu dispatcher, qui a pour objectif d'améliorer la santé humaine, la condition animale et l'état. Ah, vous êtes mauvais esprit. Et l'état de l'environnement par la promotion d'une alimentation végétarienne. Voilà. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage. Faut-il arrêter de manger de la viande ? Avec un contradicteur que je vais présenter dans un instant, sous la médiation d'Éric Birloué, et c'est publié aux éditions Le Muscadier. Voilà, faut-il arrêter de manger de la viande ? Quel était le propos de cet ouvrage ? Pourquoi avoir décidé de l'écrire ?
Alors, on a été sollicité par un nouvel éditeur qui s'appelle Le Muscadier et qui nous a interrogé sur cette question extrêmement polémique et extrêmement importante aujourd'hui. L'alimentation carnée, c'est une alimentation qui a trait à de nombreux domaines. Enfin, le choix de tel ou tel mode d'alimentation a des impacts très nombreux sur la santé humaine, sur les animaux, bien sûr, sur les écosystèmes, sur les rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc, on a dû traiter de très nombreux arguments. C'est un ouvrage qui est très nécessairement synthétique, mais j'ai beaucoup apprécié de l'écrire. J'ai trouvé que c'était très intéressant, justement, de devoir en peu d'espace expliquer pourquoi je crois en cette grande valeur qui est le végétarisme. Mmh. Et j'ai beaucoup apprécié justement voilà, de pouvoir débattre, de pouvoir mettre en avant mes arguments qui sont les arguments de l'association que je représente ici.
Dans le cadre d'une collection qui s'intitule Le choc des idées, donc de cette maison d'édition Le Muscadier, le principe c'est ça, c'est de mettre face à face deux intervenants sur quantité de sujets.
Exactement, donc la question nous a été soumise par écrit. Mon contradicteur et moi avons répondu, chacun en développant justement notre argumentation et on a eu ensuite la possibilité d'avoir un droit de réponse par rapport aux arguments qui étaient énoncés par l'autre auteur. Tout cela s'est fait sous la médiation d'un sociologue de l'alimentation qui a rédigé l'introduction et la conclusion de l'ouvrage.
Ouvrage dont on recommande donc la lecture « Faut-il arrêter de manger de la viande ?» aux éditions Le Muscadier. Le deuxième auteur, je le présente enfin, René Laporte, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ingénieur agronome, économiste, spécialiste des questions animales. Vous avez dirigé les organisations professionnelles du commerce du bétail et de l'industrie de la viande. Vous avez travaillé comme consultant sur la protection et le bien-être des animaux et sur les échanges internationaux de bétail et de viande. Et vous avez également publié avec Pascal Mincent « La viande voie rouge » chez Fayard, en 2012. Un mot peut-être, faut-il arrêter de manger de la viande selon vous ?
Écoutez, la réponse dans le livre,
la réponse est dans le livre, voilà.
C'est non. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser la question de savoir si on mange beaucoup ou pas assez de viande, quelle est la place que la viande occupe dans la dans le régime alimentaire ou dans la diète de tous les jours. Et d'ailleurs, pour lancer peut-être le débat, on a l'impression qu'on nous dit « vous mangez de la viande, vous mangez de la viande, vous ne mangez que de la viande ». Or, l'homme est omnivore, et il faut savoir que les végétaux représentent entre 75-80% de l'énergie de votre ration quotidienne. La viande ne représente que 20%.
Et ça, elle ne devrait pas représenter
non,
non, 20%.
Non, c'est, c'est l'état actuel,
c'est le socle. D'accord.
De la consommation dans le monde. Si je fais une moyenne entre les ressources alimentaires et la population, je constate que dans le régime alimentaire, la viande représente 20%, les végétaux représentent 80%. Donc l'homme est d'abord végétarien, il faudrait peut-être quand même le rappeler. La viande n'est qu'un complément. Bon, alors après on évoquera les questions de consommation des pays
bien
développés,
sûr,
des pays surdéveloppés ou des pays occidentaux, où effectivement...
Mais on revient à la base, l'homme est un chasseur-cueilleur.
L'homme est d'abord un végétarien, mais il a mis de la viande dans son assiette.
Je posais plusieurs questions tout à l'heure. D'abord, la consommation de viande de boucherie diminue lentement. Pascal Bulfard, est-ce que c'est vrai ?
Bah, disons qu'elle évolue. On va dire que par rapport à ce que j'ai connu il y a quelques années, les volumes sont peut-être un petit peu différents. Mmh. On a assisté à une montée de la qualité. Par contre, je pense qu'on s'est repositionné avec des niveaux... puisque nos éleveurs produisent des viandes qui sont vraiment destinées à la boucherie, des races qui sont spécialisées, et donc on n'est pas dans des sous-produits, on est dans des caractéristiques de matières premières qui sont très nobles.
Donc de la noblesse, mais peut-être moins de volume dans la viande de boucherie. En revanche, dans la viande d'agro-industrie...
Alors là, je peux en parler moins que mon...
René Laporte, peut-être ?
Écoutez, la consommation de viande, effectivement, dans les pays... développé, donc ce qu'on appelle le monde occidental, États-Unis, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et autres, la consommation de viande diminue depuis 15-20 ans. Mm-hmm. On est à peu près sur un train de 1 à 2% par an, beaucoup plus d'ailleurs la viande rouge. Alors il faudrait peut-être aussi expliquer, il n'y a pas qu'une viande, il y a beaucoup de... Donc il y a une diminution actuellement de la consommation de viande dans les pays développés. Pourquoi ? Parce qu'on a saturé notre envie, notre besoin de viande. Si je prends l'exemple de la France, trois chiffres. En 1950, on consommait 50 kilos de viande. En 1998, on était monté à 90-92 kilos de viande. Donc vous voyez, une progression très forte pendant
par
les...
Par personne et par an.
Par personne et par an. Et en 2012, on est plutôt maintenant à 82-83. Et tous les pays connaissent cette baisse. Donc, si vous voulez, il y a un
réajustement... Tandis que dans les pays en voie de développement, là, c'est la croissance exponentielle.
Dans les pays en voie de développement, on est sur des trends actuellement de 3 à 4%.
D'accord.
D'augmentation de la consommation, mais là surtout de la viande blanche, c'est-à-dire du porc et de la volaille.
On va aborder dans un instant l'idée que la viande augmenterait la mortalité. C'est cette étude américaine que je citais tout à l'heure, elle risque de cancer, de maladie cardiovasculaire. Mais auparavant, on écoute Francine qui nous appelle de Paris. Bonjour Francine.
Bonjour à aux intervenants, à vos auditeurs. La question que je veux poser à propos de ma santé, j'ai subi une occlusion brutale où on m'a enlevé 3 mètres d'intestin grêle et j'avoue que je ne sais pas quoi manger. Quand je demande au gastro-entérologue, il me dit mangez ce qui vous fait plaisir et j'ai éliminé pratiquement la viande parce que d'une part, je ne peux pas trop mastiquer.
Oui.
Et ensuite, on a trouvé une forte carence en fer. Je dois donc prendre du fer. Que dois-je manger comme viande ? Mon médecin me dit, manger de la viande rouge pour récupérer garder... un peu de santé.
Et pour garder les apports en fer. Alors, Abordons tout de suite les questions de santé. Allez-y, je vous en prie, Elodie Vieille Blanchard.
Oui, c'est une question bien sûr qui est délicate. Je ne peux que vous recommander de vous tourner vers un praticien de santé qui sera mieux en mesure que nous de répondre à vos questions. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il n'y a pas une carence en fer qui est supérieure chez les végétariens par rapport à la population en général. De manière générale, les personnes qui ne mangent pas de viande ont tendance à beaucoup mieux absorber le fer des végétaux, donc il y a une adaptation qui se fait avec le temps. Bien entendu, la question de quoi manger en rapport avec des problèmes de santé, c'est une question qui est très compliquée. À l'Association végétarienne de France, nous pouvons vous mettre en relation avec des médecins, des nutritionnistes et des personnes qui peuvent vous conseiller par rapport à votre situation spécifique.
La viande rouge favorise-t-elle le cancer du côlon, puisqu'on y est ?
Oui, ça c'est vraiment un rapport qui ne peut pas être contesté entre la consommation de viande rouge et les maladies. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Effectivement, le cancer du côlon est très accru chez les personnes qui consomment beaucoup de viande rouge et de la charcuterie. D'autres rapports entre la consommation de viande et les maladies peuvent être contestés. Celui-là ne peut pas être contesté, effectivement.
À quel niveau, René Laporte, est-ce que ça devient dangereux ? Quelle quantité de viande rouge charcuterie ?
D'abord, je conteste le fait qu'on dise consommer de la viande rouge, consommer de la charcuterie entraîne un risque accru de cancer du côlon. Je rappellerai quand même à ma contradictrice que quand on lit les études, c'est une consommation élevée de viande qui peut entraîner un risque accru de cancer. Donc élevée de viande, ça veut dire quelque chose, ça veut dire c'est une consommation excessive de viande.
C'est-à-dire c'est la viande deux fois par jour, qu'est-ce que c'est ?
Alors maintenant on va y venir. La Fondation pour la recherche sur le cancer,
oui,
qui est le seul organisme au monde, pour l'instant, que je connaisse et qui donne des recommandations nutritionnelles qui sont, je semble-t-il, avalisées quand même par le monde scientifique et non pas par l'Association végétarienne de France, je comprends, dit simplement, on recommande 500 grammes de viande cuite, de viande rouge cuite, par semaine. Or, 500 grammes de viande rouge cuite, c'est 700 grammes de viande achetée chez le boucher. Et c'est un kilo de viande avec os.
Bon, t'as dit 500 grammes de viande rouge par semaine, c'est une côte de bœuf par personne par semaine. Quoi. Maxi, c'est quand même pas beaucoup. C'est deux steaks.
D'abord, quand vous mangez une côte
deux de entrecôtes.
Bœuf, excusez-moi, quand vous mangez une côte de bœuf de 500 grammes,
oui, il y a l'os.
Cuite, vous allez laisser l'os dans l'assiette, j'espère du moins.
Hein. Pas sûr.
Bon, d'accord. Vous allez laisser du gras également. Donc vous allez manger au maximum 250 grammes sur les 500.
D'accord.
500 grammes, c'est déjà beaucoup. Bon, et tout le monde ne mange pas une côte de bœuf par semaine.
Néanmoins, ceux qui mangent chaque jour, peut-être un peu de fast-food, peut-être au bistrot, peuvent très vite manger une autre côte par jour.
Là aussi, il y a des gens qui en mangent plus, il y en a qui en mangent moins. La moyenne des Français consomme actuellement 70 grammes de viande rouge par jour.
Peut-être pour illustrer, moi je pourrais vous donner un exemple concret. J'ai regardé un petit peu mes statistiques de la semaine dernière. Sur deux magasins que nous avons à Choisy-le-Roi, donc une petite boucherie de quartier où là, le client en moyenne par semaine achète aux alentours du kilo, mais sachant qu'il a une famille complète à nourrir, et bon, ça peut concerner des personnes âgées, mais ça concerne aussi des familles, donc c'est un panel assez représentatif de la vie locale. Et puis sur le grand magasin, où là on a un rayonnement qui dépasse un petit peu les frontières de la ville, on est plutôt sur 1,5 kg, 1,6 kg de viande achetée par client. Donc en témoignant aussi des besoins, j'irais, normaux de la vie quotidienne, et puis de l'achat plaisir du week-end.
Ouais. Ona Mayoko, est-ce que vous pouvez faire la lumière pour nous sur le monde végétarien ? Quelle différence il y a entre végétarisme, végétalisme, les gens qui sont véganes ?
Alors, ça consiste ? Les végétariens donc, ne mangent pas de chair animale. Voilà.
D'accord.
Les végétaliens...
Aucune, pas même poisson.
Non, pas de poisson.
D'accord.
Voilà. Les végétaliens ne mangent pas de chair animale et pas de sous-produits animaux. Donc pas de lait, les œufs, pas de lait, pas de produits laitiers, pas de miel. Et les véganes sont végétaliens, et dans leur consommation quotidienne, enfin en matière de vêtements, de cosmétiques, évitent tous les produits qui ont été faits à partir d'animaux ou qui ont été par exemple testés sur les animaux, voilà.
Puisqu'on parle de consommation responsable, équilibrée, etc. La viande, on va se battre un peu contre les idées reçues, est-ce qu'elle concentre des polluants par l'alimentation de l'animal qui s'incrusterait dans les graisses, comme les polluants organiques, type dioxine, etc., qui auraient des effets sur la santé. Qui veut réagir, Pascal Buffard?
J'ai pas eu vent de ces informations-là. Moi, bon, je fais confiance à la législation française qui réglemente quand même de façon très rigoureuse le mode d'élevage et puis l'alimentation, avec des contrôles vétérinaires accrus. Donc, moi, j'ai relativement confiance dans ma filière.
Claudivier Blanchard.
Il y a un principe biologique qui est assez basique, c'est que quand on remonte dans la chaîne alimentaire, les polluants se concentrent, ce qui est tout à fait logique. Donc, si vous consommez des gros poissons, par exemple, il y aura plus de polluants que dans des petits poissons. Et si vous consommez des petits poissons, il y en aura plus que dans des algues. C'est exactement la même chose quand on consomme la chair des animaux, le lait des animaux. Donc, effectivement, il y aura toujours plus de pollution dans les produits animaux que dans les produits végétaux.
Est-ce que... Oui, René Laporte.
Non. Alors, excusez-moi, là aussi, je dois quand même défendre la viande. Vous dites qu'il y a plus de polluants dans les produits végétaux, dans les produits animaux que dans les produits végétaux. Quel est le chiffre que vous pouvez avancer en matière? C'est une idée reçue, je suis désolé. Il y a autant de polluants, si on ne les contrôle pas, dans les végétaux que dans les produits animaux. Dans la plante, en plus, elle le prend directement et elle les stocke. L'animal... Non, mais vous pouvez dodeliner de la tête, ça ne me gêne pas. Je vous dis simplement que l'animal...
Faut-il arrêter de manger de la viande pour faire toute la lumière?
Non, simplement l'animal, il a... Alors, je vais prendre les bovins. Il a une machine qui transforme les produits. Il a un rumen avec la fermentation et tout, je ne vous fais pas de dessin. On a beaucoup plus de liens directs, effectivement, avec les monogastriques, le porc et la volaille, qui, eux, transforment beaucoup moins les produits, et donc vous pouvez trouver des résidus, effectivement, dans la viande. Je vous signale quand même que l'ensemble de la filière fait l'objet de contrôle, et de contrôle de résidus, et que par exemple en l'année 2011, il y a eu plus de 12 000 contrôles sur la teneur en résidus des viandes, et qu'il y a eu, je crois, 28 cas positifs sur 12 000.
Je voudrais qu'on parle de biologie un petit peu. Certaines vitamines qui n'existeraient, vous allez me le confirmer ou non, que dans le règne animal. Vitamine D, par exemple, qui permet l'absorption intestinale du calcium, garant de notre ossification dans le lait, dans la viande. Les oméga 3 qu'on retrouve dans le poisson et également dans la viande, qui préviennent pas mal de maladies cardiovasculaires et certains cancers. Vitamine B12, dont l'élaboration est si lourde et complexe que quelques micro-organismes seulement en sont capables, que l'on trouve dans les ruminants. Et à moins d'être OGM, la meilleure des protéines céréalières ou issues de n'importe quel végétal ne contiendrait ni vitamine D, ni vitamine B12, ni vitamine A et presque pas de fer. Qu'est-ce qu'on peut répondre?
Alors, je veux bien commencer à répondre à cette question. C'est une question que beaucoup de végétariens et de véganes se posent et ce sont des questions qui sont très importantes. En tant qu'association végétarienne de France, on recommande à toutes les personnes qui sont véganes et même de manière générale aux personnes végétariennes de se supplémenter en vitamine B12 étant donné qu'il n'y a pas de source fiable de vitamine B12 dans le règne végétal. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement sûr qu'il n'y en a pas dans le règne végétal, ça veut dire que par précaution, on recommande aux personnes de se supplémenter.
Avec des compléments?
Alors, il faut savoir que de manière générale, la vitamine B12 est produite par des bactéries du sol. Dans le contexte très, très aseptisé des élevages actuels, cette vitamine n'est pas présente dans l'alimentation des animaux. Donc, il faut savoir que la plus grande partie de la vitamine B12 qui est produite dans le monde est produite pour les animaux d'élevage. Donc, les gens qui mangent de la viande consomment aussi de la vitamine B12 qui a été produite pour des suppléments. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de différence entre les deux. On est tous supplémentés en vitamine B12, soit en passant par les animaux, soit sans passer par les animaux. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne la vitamine B12. Pour ce qui concerne la vitamine D, c'est vrai qu'elle est présente dans les produits animaux et dans les poissons. Il faut savoir que c'est une vitamine qui est produite quand on s'expose au soleil et que dans nos pays, sous nos latitudes, une très très grande partie de la population souffre de carence en vitamine D.
Peut-être 70%
en hiver, exactement. Donc effectivement, on peut consommer par exemple des extraits de lichen qui sont riches en vitamine D. Donc c'est présent dans certains végétaux, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On peut consommer, quand on est vegan, des extraits de lichen qui permettent justement d'avoir un bon système immunitaire, ce qui est très important. Et j'en viens aux oméga-3, puisque vous avez tout à fait raison. Alors les oméga-3, il faut savoir qu'il en existe de trois sortes. les ALA, les DHA et les EPA. Mmh. Bon, c'est un petit peu compliqué. Seulement les ALA sont présents dans le règne végétal, par exemple dans les noix, dans l'huile de colza, dans un grand nombre de légumes à feuilles vertes. Et le corps, dans de bonnes conditions, peut convertir ces ALA en les deux autres sortes d'oméga-3 qu'on appelle les oméga-3 à chaîne longue. Donc ça, c'est possible a priori. Mais même si on considère, si on a peur que le corps ne fasse pas bien la conversion, il faut savoir que si les poissons gras ont des oméga-3 à chaîne longue dans leur chair, c'est-à-dire donc des EPA et des DHA, c'est tout simplement parce qu'ils consomment des micro-algues qui sont riches en oméga-3. Et on peut également, quand on est végétarien ou quand on est vegan et qu'on veut avoir un taux optimal en oméga-3, consommer ces extraits d'algues. Donc encore une fois, ces oméga-3 sont bien présents dans le règne végétal, c'est quelque chose qui existe.
Mangeons-nous trop de viande? Je vais vous donner la parole dans un instant, René Laporte, mais on va marquer une très très courte pause, 01 56 56 44 00 pour participer à cette émission. A tout de suite.
La voie est libre, 01 56 56 44 00.
Vox Libri. Bonjour, c'est Philippe Delaroche. Je vous invite à nous rejoindre sur Vox Libri, l'émission hebdomadaire qui traite de l'actualité du livre religieux, du roman et des essais en compagnie de nos invités.
Vox Libri avec Philippe Delaroche, tous les mardis et jeudis à 11h30 et 19h30 sur Radio Notre-Dame.
Diapason, le magazine de la musique classique, vient de paraître. En mars, Diapason rend hommage à Claudio Abbado, l'immense chef d'orchestre qui vient de nous quitter. Avec Diapason, partez aussi à la découverte des plus grands compositeurs scandinaves, Grieg, Sibelius et les autres. Diapason, c'est aussi plus de 160 critiques de disques. Et ne manquez pas le CD événement offert par Diapason, les célèbres sonates pour violoncelle et piano de Beethoven dans une interprétation légendaire. Avec Diapason, osez être classique.
Pardon?
Comment?
Quoi? Désolé, j'ai
vous
pas
dites,
compris.
Hein? Comment?
N'attendez pas de ne plus entendre pour réagir. Vivason vous propose la dernière technologie d'appareil auditif. Entièrement invisible, numérique, à partir de 590€ seulement.
Comment ?
Oui, vous avez bien entendu. Une audition grand confort et un appareil auditif invisible pour 590€ seulement.
Pour un rendez-vous gratuit dans l'un des 12 centres Vivason, appelez le 01 43 68 43 68. 43 68 43 68 et repartez dès maintenant avec 3 mois de pile offert.
Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h.
La voie est libre. Alexandre Meyer.
Mangeons-nous trop de viande? Le débat continue dans La Voie est libre avec mes invités Ona Mayoko, créatrice d'un atelier de cuisine végétarien à Paris, www.supernaturel.com, avec Élodie Vieille-Blanchard, professeure agrégée de mathématiques, docteur en sciences sociales, présidente de l'Association végétarienne de France, co-auteur de « Faut-il arrêter de manger de la viande ?» chez Le Muscadier avec René Laporte, ingénieur agronome et économiste, auteur également de « La viande voie rouge », co-écrit avec Pascal Mincent chez Fayard en 2012, et puis Pascal Buffard, boucher-charcutier-traiteur, mais le site internet, le vôtre, c'est boucherie, trait d'union, traiteur, trait d'union, buffard.fr. Voilà, tous les sites internet sont d'ores et déjà disponibles sur le site de La Voie est libre, sur le radionotre-dame.net et 01 56 56 44 00 pour réagir et poser vos questions à mes invités. Vous vouliez réagir, René Laporte, à cette question des vitamines?
Non, simplement un petit point. C'est vrai que pour le monde animal, la viande, c'est surtout la vitamine B12 qui est intéressante parce que c'est globalement le seul produit dans lequel on la trouve. On peut complémenter les animaux, mais je vous ferai remarquer quand même que les bovins, ils ont l'avantage, avec le rumen, de produire eux-mêmes la B12. On n'a pas besoin de les supplémenter, ce qui est un avantage pour l'élevage des bovins, des herbivores. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera d'ailleurs des gaz à effet de serre.
Pascal Buffard, viande blanche, viande rouge, steak, gigot, certaines viandes sont plus grasses que d'autres. Comment faire son choix? Quelles sont les propriétés nutritionnelles de chacune, celles que vous recommandez ?
Bah, disons que dans tous les types de viande, il y a des parties qui sont plus grasses que d'autres, mais après il faut sélectionner aussi peut-être selon les désirs. Si on prend le bœuf et l'agneau, qu'on considère en général un petit peu plus chargé en matière grasse, il y a des parties qui sont très maigres, et nous, la chance qu'on a, c'est de pouvoir éplucher carrément la viande à son maximum pour retirer les parties excédentaires en gras.
Ouais.
Je parle par exemple du bifteck haché du boucher. On est vraiment dans de la protéine noble et une qualité de matière première exceptionnelle.
Là, je crois qu'il faut, rien que sur le bifteck haché, faire la part des choses entre le steak, enfin 10 steaks hachés de la grande distrib et puis celui du boucher.
Ah oui, il n'y a pas photo là.
Dans un cas c'est minerai, dans l'autre c'est la chair.
Ah enfin... oui, non, on n'est pas dans les mêmes catégories. Là, nous, on extrait le bifteck haché à partir d'une bête qui peut être une limousine ou une charolaise ou une blonde d'Aquitaine, donc qui a été élevée uniquement à des fins bouchères. Et de par notre métier, on sait mettre en valeur ce produit de la plus belle manière.
Mmh. Vous parlez des vaches élevées en plein air. Contrairement à une idée reçue, le bilan écologique des ruminants n'est pas si mauvais, car les prairies qu'ils pâturent stockent du carbone, contribuent à la biodiversité, utilisent des espaces où souvent seule l'herbe est capable de pousser. Sauf que les ruminants sont de plus en plus nourris avec de l'ensilage de maïs, des céréales, du tourteau de soja. Est-ce que... En l'occurrence, vous veillez à ce qu'ils soient.
Oui, parce que dans la démarche
des bêtes de pré.
Oui, dans la démarche de l'original, on a justement remis en valeur cette alimentation à base d'herbes et de céréales produites sur l'exploitation. On est dans un système beaucoup plus logique, plutôt que d'importer des matières premières à outrance. On essaye de valoriser sur l'exploitation la matière première et d'aboutir au produit idéal.
René Laporte.
Oui, quand vous posez la question, est-ce qu'on mange trop de viande, je pense qu'il faut aussi évoquer le prix. Vous avez parlé des viandes blanches et des viandes rouges. Globalement, la viande rouge est deux fois plus chère que la viande blanche. C'est-à-dire que la viande de bovin, la viande d'agneau, est en moyenne deux fois plus chère que la viande de porc, la viande de volaille. Donc c'est un facteur dont il faut tenir compte, notamment quand on s'adresse à des populations qui n'ont pas les niveaux de vie et qui souhaiteraient manger d'ailleurs. Parce que quand vous posez la question, faut-il manger plus ou moins de viande? Ça dépend à qui vous la posez, la question. Si vous la posez à des catégories sociales, même en France, qui n'ont pas les moyens d'acheter beaucoup de viande, ils vous diront qu'ils souhaiteraient en manger plus. Si vous adressez effectivement à ceux qui ont pu saturer leur consommation, il n'y a pas de problème. Mmh. Si vous allez dans les pays en développement, à l'heure actuelle, on constate que chaque fois que le niveau de vie s'élève, la consommation de viande augmente. Bon, ils feront comme nous, ils passeront par un palier, et ensuite, ils stabiliseront et ils diminueront leur consommation de viande. Mais il y a un appétit de viande dans le monde.
Élodie Blanchard, sur la question de l'écologie.
Sur la question de l'écologie, on sait que le bilan de la viande est extrêmement lourd. Je pourrais citer l'Atlas de la viande qui a été produit par l'Association des Amis de la Terre au niveau européen il n'y a pas très longtemps. Les chiffres varient beaucoup, ce qui est normal parce que les modèles qu'on utilise, les modèles climatiques, les modèles biologiques varient. Dans cet atlas de la viande, je vais citer quelques chiffres. On sait aujourd'hui qu'un tiers des terres cultivées dans le monde sont cultivées pour produire de la nourriture pour les animaux qu'on mange ensuite. Pour produire un kilo de bœuf, il faut 15 000 litres d'eau. Bon, ça, c'est un chiffre qui est assez connu aussi. Mmh. Et puis, la contribution de l'élevage aux émissions de gaz à effet de serre, dans ce dernier document, encore une fois, les chiffres varient, c'est 30%. Donc, c'est quelque chose qui est absolument considérable. Bon, je pense que les deux intervenants qui sont présents ici parlent d'un élevage en pré. Bon, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe. Il faut savoir quand même que la très, très grande majorité des élevages en France, ce sont des élevages concentrationnaires, extrêmement industriels, qui ont un bilan écologique particulièrement lourd. Et malheureusement, enfin moi je le déplore, la viande n'est pas chère parce qu'il y a des subventions qui sont très importantes et parce que les conditions d'élevage sont telles qu'on parvient à produire de la viande à un coût qui est absolument dérisoire aujourd'hui.
Mmh. Ah, là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la bonne viande, elle a un prix. Hein. Nous, le client, peut-être qu'il la trouve chère, mais nous, quand on l'achète, elle n'est pas donnée non plus. Donc, quand l'animal a été élevé... À cette fin, ça représente un coût qui n'est pas négligeable.
Le nombre de prairies sont aussi trop pauvres pour permettre la culture de céréales, sauf à utiliser beaucoup d'engrais. Et globalement, les protéines animales sont nutritionnellement meilleures que celles d'origine végétale. ça devrait suffire à
mais
convaincre.
Mais non, mais pas du tout, mais c'est vraiment un cliché. Enfin, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit dans votre introduction, on aurait besoin de consommer des protéines animales. Non, il n'y a absolument aucune protéine qui passe la barrière de l'intestin grêle, elles sont toutes dégradées. On n'a pas besoin de protéines, on a besoin d'acides aminés. Ils sont tous présents dans le règne végétal, c'est quelque chose qu'on sait très bien. Ce sont des clichés de dire le contraire, on peut pas affirmer le contraire.
Ona Mayoko, on peut se nourrir sainement et de manière très complète avec avec le bio, avec le végétarien, je veux dire.
Oui,
avec enfin, l'un va
oui, avec le
avec l'autre.
Ouais. Avec le pas forcément, avec le végétal, on peut se nourrir de façon saine et surtout avec beaucoup de plaisir. Et voilà, moi c'est ce que j'essaye de transmettre lors de mes ateliers de cuisine. Donc voilà, l'important c'est vraiment de pouvoir savoir comment exploiter toute cette variété végétale en fait, savoir comment cuisiner tous ces types d'aliments dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure en introduction. Et voilà, il y a tout un tas de pratiques, de savoir-faire liés à cette cuisine végétarienne. Donc voilà, on vous a amené quelques ouvrages un peu pour vous montrer.
Le Paris végétarien, les meilleurs restos et autres bonnes adresses, c'est chez Paris Gramme. Les savoir-faire de la cuisine végétarienne, je découvre en même temps que vous, chez La Plage. Et recettes végétariennes, cuisine 100% saine.
Voilà, donc il y a une réelle émulation autour de cette cuisine, avec beaucoup de livres de cuisine qui paraissent en ce moment chez des éditeurs comme La Plage, et puis des éditeurs plus connus comme Larousse par exemple, qui reprennent un peu tout ça. Il y a sur internet énormément de blogs de cuisine végétarienne, donc
est-ce que c'est pas un effet de mode?
Un effet de mode?
Oui.
Sérieusement, je ne pense pas. Parce que les gens qui sont là-dedans, ils sont vraiment très impliqués, ils sont réellement passionnés. Moi, je vois vraiment ça comme quelque chose un enthousiasme nouveau, croissant, un intérêt croissant, en fait. Et c'est pas, faut pas réduire ça à une mode un peu parisienne, un peu bobo. Non, vraiment, c'est pas ça.
Parce qu'on a vu, déferler cet hiver, d'ailleurs, ça date même de l'hiver dernier, la folie des burgers, les bars à burgers, les machins. Finalement, c'est peut-être cyclique. Néanmoins, juste pour terminer là-dessus, on peut se nourrir sainement, mais surtout de façon, j'insiste là-dessus, avec un équilibre nutritionnel complet.
Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, j'explique un peu aux gens comment équilibrer leur alimentation au quotidien, voir comment cuisiner les céréales, les légumineuses. Notamment, on a mis en place avec l'AVF un cycle d'ateliers qui s'appelle Easy Veggie, qui est vraiment destiné aux végétariens débutants, aux personnes qui souhaitent diminuer leur consommation de viande. Donc, on aborde sur 5 à 6 séances différentes thématiques, les légumes, les céréales légumineuses, les produits protéinés, les desserts sans lait, sans œufs, voilà, pour vraiment pouvoir introduire cette cuisine.
Je vais être un tout petit peu polémique avant de vous laisser la parole, René Laporte, mais enfin, vous pourrez vous exprimer là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une part aussi d'idéologie? Je sais que le mot est fort, ou de jugement moral sur les consommateurs de viande. Tuer les animaux, c'est pas bien.
C'est pas un jugement sur les consommateurs de viande, mais bien entendu qu'il y a une implication morale très forte. Enfin, je veux dire, vous avez tous, je pense que toutes les personnes qui sont présentes et toutes les personnes qui nous écoutent ont déjà eu à un moment de leur vie un rapport privilégié avec un animal. Les animaux sont sensibles, les animaux ont des émotions, les animaux développent des relations affectives avec nous et entre eux, les animaux sont intelligents. On sait très bien qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont envie de développer d'autres rapports avec les animaux, de vivre en paix avec les animaux. Les élevages et les abattoirs sont des lieux de très grande violence pour les animaux. C'est quelque chose dont on parle peu, mais on est quand même dans une radio qui porte des valeurs spirituelles ici. Ce n'est pas une question qui est neutre. On ne peut pas traiter de manière symétrique le choix de manger de la viande et le choix d'être végétarien. De très grandes traditions spirituelles ont déjà énoncé la nécessité d'avancer vers un régime végétarien pour construire un monde moins violent. Et bien évidemment que c'est une question qui se pose. Ça n'est pas quelque chose de ridicule, c'est une question très importante à laquelle on doit répondre à notre époque. Et on ne peut pas faire l'impasse sur cette question aujourd'hui.
Mais c'est vrai aussi que l'Évangile parle de tuer le veau gras à peu près à chaque instant. Et les animaux qui nous flattent aussi par ce bon fumet qui se dégage de l'assiette. Et l'aspect de la création dont l'homme à la charge, René Laporte, vous voulez réagir.
Alors je crois que là, on arrive au cœur du problème. Bon, d'abord, je laisserai quand même à Madame Élodie Vieille-Blanchard la responsabilité de dire que la viande produite dans le monde n'est pas assez chère. Bon, on ne doit pas vivre sur la même planète. Et les moyens de vie et l'accès à la viande, pour l'instant, posent des problèmes aux populations qui ne sont pas très riches. Donc, on a essayé plutôt d'apporter de la viande et des protéines animales à toute la population et non pas à une certaine élite, comme vous le souhaitez. Mais ça, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Alors là, par contre, quand vous attaquez la violence, l'industrie, l'élevage concentrationnaire, bon, c'est des clichés qui vous vont bien, qui font votre propagande, et ça, c'est parfait. Mais regardons-nous, est-ce que les mangeurs de viande sont des gens violents? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Où est la violence? Où est la violence des mangeurs de viande?
Je pense que vous ne souhaitez pas nécessairement être violent, bien. Mais pense que l'abattage des animaux est une très grande violence.
Je vous ai écouté, maintenant je continue. Le fait de tuer l'animal, c'est effectivement un acte grave. Ça, je vous l'accorde. Et les mangeurs de viande, comme les végétariens et comme le reste de la population, si tant est qu'il y a d'autres catégories, se posent la question. Simplement, on ne répond pas de la même manière. Excusez, on souhaiterait quand même de votre part un peu de tolérance. Qu'est-ce que c'est que ce dictat qui dit « vous n'avez pas le droit de tuer les animaux » Bon, je crois qu'on l'a développé pas mal dans notre livre.
Voilà, la relecture du match, faut-il arrêter?
Moi, je ne le trouve pas dans la philosophie, dans la religion, dans la science encore moins, une loi morale. Non, mais on est dans la morale, on est dans l'éthique, là. Il ne faut pas se cacher les mots. Qui dirait... Il faut pas tuer les animaux parce que les animaux, comme on a dit, le cinquième commandement, ou je sais plus combien, tu ne tueras pas ton semblable. Bon, d'accord, mais je ne trouve pas. Alors, il y a des pensées philosophiques minoritaires qui existent et je les connais et je les ai étudiées, mais elles sont minoritaires. Elles sont à la limite du danger. Je m'excuse, mais quand Peter Singer compare les enfants handicapés aux grands singes, il a failli déraper. Même Elisabeth de Fontenay, qui est quand même une autorité morale en la matière, l'a rappelé à tout le monde. Je parlerai pas de religion, même si nous sommes ici à Radio Notre-Dame.
On a le droit.
Mais j'irai faire ma prière à Sainte Rita pour les animaux.
Pascal Buffard. De toute façon, la mort, par définition, est violente. Hein, qu'elle soit humaine ou animale, je pense qu'on peut pas rester insensible à ces choses-là. Par contre, où j'apporte une petite nuance, c'est que la législation française est très draconienne sur les conditions dans lesquelles on abat les animaux. Et on ne laisse pas faire n'importe quoi. Il y a quand même des précautions qui sont prises pour que l'animal souffre le moins possible.
Oui. Étourdissement et autres.
Étourdissement obligatoire. Oui.
Ouais. On va juste écouter Valérie qui nous appelle de Paris, qui voulait réagir à cette question de l'abattage. Valérie,
c'est à vous. Oui, merci. Écoutez, justement, je trouve que les conditions d'abattage ne sont pas respectées dans le droit, ou en tout cas le respect de l'animal. Surtout sur ces notions de halal ou de cachère, où la bête est saignée et pas toujours en étant étourdie au préalable.
Alors,
il y a des questions de rentabilité qui font que...
Je défends la position des bouchers artisans,
oui.
Et je dis que nous, justement, nous mettons un point d'honneur à appliquer la législation française dans la démarche collective. On essaye de vérifier que l'animal a bien été estourbi. Et
Mais ça, c'est une question, encore une fois, de filière, de traçabilité.
Voilà,
mais nous, la responsabilité incombe aussi au client de demander à son boucher comment ça s'est passé. Il me semble.
Bon, moi, j'aimerais bien répondre à cette question. Je pense qu'on peut raconter toutes les belles histoires qu'on veut. Voilà, vous représentez l'industrie de la viande, vous avez intérêt à ce que les gens mangent de la viande. Moi, personnellement, je ne gagne aucun argent en étant présidente de l'Association végétarienne de France. Je défends une cause parce que je trouve qu'elle est noble et qu'elle est juste. J'ai malheureusement eu l'occasion de m'entretenir avec Jean-Luc Daube, qui a été enquêteur pour la protection animale dans les abattoirs pendant 15 ans. Il m'a raconté des histoires qui me font froid dans le dos. La législation, c'est une chose. Encore faudrait-il qu'elle soit appliquée. On vit dans une société qui est une société industrielle, qui est une société capitaliste. Il faut produire de la viande, il faut que ça coûte pas très cher, parce que si on va dans le supermarché du coin, je suis désolée, ça coûte pas cher du tout la viande. Il y a des cadences qui sont infernales dans les abattoirs. La plupart du temps, les animaux ne sont pas étourdis quand ils sont saignés. Les images des abattoirs sont assez terribles. Malheureusement, on a beaucoup de mal à avoir accès à ces images, parce que toute la société a intérêt à cette invisibilité des traitements qui sont faits aux animaux. Je regrette infiniment que ce soit le cas, mais malheureusement, les abattoirs ne sont pas des lieux de beauté, ne sont pas des lieux de respect, ne sont pas des lieux pacifiques.
À vous entendre, on ne tue plus aucun animal.
C'est effectivement
même les rats et les pigeons.
C'est effectivement le choix que j'ai fait. Je me suis acheminée vers le véganisme. J'ai mis un certain temps pour m'acheminer vers le véganisme. Je pense que chaque personne fait à la mesure de ses possibilités. Chaque personne évolue à son rythme. Mais je pense qu'on ne peut pas cautionner les traitements qu'on fait subir aux animaux aujourd'hui.
Néanmoins,
si on est
dans
un
la mesure où il s'agit
honnête.
D'un animal, on ne peut pas non plus refuser à quelqu'un le droit d'en manger ou de l'abattre s'il le
Donc,
souhaite.
Donc il s'agit de la loi du plus fort. Étant donné que les animaux sont plus faibles, on a le droit de les exploiter, de les transporter dans des conditions abominables et de les abattre.
On s'éloigne un petit peu du sujet, là,
je ne trouve pas.
On y reconsacrera une émission si vous le souhaitez. On va écouter Marie-Ange qui nous appelle de Cannes et on va revenir à ce débat. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Alexandre. Bonjour à vos invités. Moi je suis évidemment très sensible au fait que les abattoirs posent problème en France, mais je suis encore beaucoup plus sensible à la violence faite aux personnes, notamment en Amérique latine, aux petits paysans. Il faut savoir qu'une bonne partie, je ne sais pas le pourcentage, de la viande bovine que nous importons est élevée là-bas par des multinationales et des très grands propriétaires fonciers, ce qui induit 240 000 familles paysannes sans terre, et que d'autre part leurs terres sont également accaparées non seulement pour l'élevage des bovins, parce que si les paysans, 240 000 familles multipliées par 8 ou 9 personnes, ça fait 2 millions, et par contre une vache paraguaye pour venir dans nos assiettes, elle dispose elle d'un hectare 7. En plus il faut savoir que ces grandes compagnies, ces grands éleveurs cultivent pour nos éleveurs du soja très souvent transgénique, et que ces grands éleveurs procèdent à des fumigations, c'est-à-dire des bombardements d'agrotoxiques
s'assurer que
c'est ce qui nous arrive dans nos assiettes, et c'est ce qui fait là-bas des paysans malades qui sont obligés de quitter la campagne pour remplir les bidonvilles.
Merci Marie-Ange. Marie-Ange, on consacrera bien entendu une émission à ce sujet, mais pour revenir et rebondir sur ce que vous nous avez dit, sur la réalité à laquelle vous nous éveillez, Pascal Buffard, la traçabilité plus que jamais essentielle.
Bien sûr, nous on travaille plus de 95% de viande française. Donc la viande de France, elle vient pas d'Amérique latine. Hein. Elle est produite chez nous par des filières organisées et pas à n'importe quelle condition. Donc je me sens pas trop concerné par ces importations massives.
Néanmoins, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait communiquer. Si on laisse de côté les méthodes d'abattage, au moins sur la responsabilisation d'une filière qui prend soin de ses éleveurs, qui prend soin de ses animaux.
Nous, on l'a fait par l'intermédiaire de l'original, puisque c'est pris en compte, hein, aussi bien au niveau des éleveurs que des abattoirs et que des bouchers artisans qui s'engagent avec des vraies valeurs morales.
René Laporte ?
Non, simplement. Effectivement, l'élevage dans le monde peut poser des problèmes. Et les problèmes qui se posent au Paraguay, notamment concernant l'extension des surfaces pour le soja et autres. Mais là, on touche d'autres problèmes qui sont bien plus larges que la seule viande. C'est le problème de la propriété foncière, c'est le problème des révolutions agraires qui ont été faites ou pas faites, la redistribution des terres dans ces pays-là.
Et de l'exigence de viande d'une partie très importante du monde qui se développe.
Je voudrais quand même appuyer M. Buffard. En France, 98% même, je pense, de la viande qui est consommée en France provient soit de France, soit des pays de l'Union européenne. Les importations provenant des pays tiers d'Amérique du Sud, d'Argentine et du Brésil, pour prendre les deux pays les plus importants, c'est marginal. Bon, par contre, on importe du soja effectivement pour nourrir nos porcs et nos volailles. Et là, il y a aussi des discussions, il y a des plans de production des protéines végétales pour les animaux en France. Ça prendra des terres pour nourrir les animaux. Mais on peut aussi faire des petits pois et autres en France pour nourrir les animaux. Donc, tout n'est pas parfait, mais les producteurs de viande et le secteur industriel de la viande que, paraît-il, je représente et qui me nourrit grassement, merci Madame Mélodie, on a les oreilles ouvertes, on a les yeux ouverts, on voit le monde, on sait ce qui se passe, et on sait qu'il y a une demande de viande dans le monde. Alors, on peut décider de ne pas y répondre en France, on peut se refermer, et puis on fera quoi ? On va tous aller
Élodie Vieille-Blanchard.
Oui, je voudrais questionner cette censée exigence de viande. Je voudrais simplement dire qu'il y a beaucoup de pays en développement qui ont tendance à imiter nos modèles, hein, que ce soit le modèle de la voiture, le modèle de l'alimentation lourde en protéines animales. On n'est pas obligé d'aller dans cette direction. Il y a beaucoup de modèles qui existent. Et au contraire, dans nos pays, on est en train de revenir vraiment de ça. Il y a une très grande partie de la population étudiante aux États-Unis qui est
aujourd'hui... Peut-être parce qu'on a eu le loisir et le privilège de pouvoir le tester, ce modèle, avant d'en
revenir. Mais peut-être, mais je pense qu'on ne peut tout simplement pas se permettre, avec l'évolution démographique de la Chine et de l'Inde, que ces pays suivent notre exemple, et peut-être qu'on est complètement...
Est-ce que vous êtes sûr qu'ils suivent notre exemple, est-ce qu'ils ne suivent pas
Il y a un très fort accroissement de la consommation de viande et de produits laitiers en Chine, par exemple. On n'est pas obligé d'aller dans cette direction. Enfin, encore une fois... dans les pays industrialisés, il y a une très forte partie de la population qui est en train d'amorcer un autre mouvement.
Mais vous n'empêcherez pas des Indiens, par exemple, de choisir
Ma seule possibilité, c'est d'écrire des livres, dire que voilà, on peut être végétarien et vivre très très bien, que c'est un modèle qui permet de vivre en paix avec les animaux, d'avoir une empreinte écologique beaucoup plus légère. Ma seule possibilité, c'est de m'exprimer. Je vais continuer à le faire, bien sûr.
Pour terminer, il nous reste 2 minutes, hein, sur ce sujet, mange-t-on trop de viande et comment avoir une consommation responsable aussi de viande. On nous a posé la question tout à l'heure de la viande de cheval. Pascal Blanchard, je vous pose la question. Je vous pose la question. La viande de cheval est-elle bonne, meilleure, plus grasse, moins grasse?
La viande de cheval est très bonne.
Quand elle n'est pas mélangée à des lasagnes.
Bien sûr, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer les chevalins au Salon de l'Agriculture, parce que tous les ans c'est un rendez-vous incontournable entre nous, puisqu'on travaille la même matière, que ce soit du cheval ou du bœuf ou autre viande. On est des défenseurs de cette bonne chose qu'on considère, nous, qui n'est pas interdite et qui fait plaisir.
Prenez la porte.
Ben écoutez, la viande de cheval est aussi bonne que la viande de bœuf, il n'y a aucun problème. Elle est peut-être pas aussi bien tracée, mais je pense que maintenant, il y a des décisions qui ont été prises. Et je vais dire qu'il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je parle face à un boucher, surtout viande bovine. On avait séparé la viande de cheval et la viande de bœuf pour justement qu'il n'y ait pas de mélange, puisqu'il y avait des boucheries hypophagiques et des boucheries... pour qu'on ne puisse pas mélanger la viande.
Donc, une idée recette, Pascal Buffard, en 30 secondes?
Pour manger
de la
bonne viande, bon, si vous avez peu de temps à accorder, vous faites une pièce grillée, qu'elle soit de bœuf, de veau ou d'agneau, pas trop grasse, et puis en quantité raisonnable.
Et Ona Mayoko, un produit?
Je vous conseille une soupe très réconfortante de potimarron avec du cumin et déguster avec un bon pain de levain.
Pour bien finir l'hiver, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus participer à cette émission. Merci Élodie Vieille-Blanchard, René Laporte. Faut-il arrêter de manger de la viande chez le Muscadier? Merci Ona Mayoko, www.supernaturel.com. Et merci à vous Pascal Buffard, www.boucherietraiteurbuffard.fr. Excellente journée à tous et à très bientôt.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.
Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de la rédaction de Radio Notre-Dame à 10h03 et 20h28. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque de France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 10h03 et 20h28 sur Radio Notre-Dame.
Chaque tapis est une pièce unique. Il a son histoire, son style, son caractère.
Depuis 3 générations, la clinique